La midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquet.
Bonjour à cette midinale du 17 mai 2021. Alors, moi c'est Lionel, nous sommes avec
Dubois,
et
salut,
et Steph, salut,
et Steph. Alors, par quoi on commence?
Alors, on va commencer par toi.
Ah merde, ah ouais.
Et, tu vois, c'est ça, on avait bien répété juste avant pour pouvoir te lancer, et du coup, tu voulais nous parler de...
Bon, moi, je voulais faire un petit...
C'est précis comme lancement, ça.
Oui, ben bien sûr. Je voulais faire un petit focus sur la situation en Palestine, enfin en Israël. Donc, il y avait plusieurs articles que je voulais un peu présenter, mais surtout aussi évoquer le bruit de fond médiatique. Donc voilà, il y avait un article sur le site Les Crises qui s'appelle « Human Rights Watch accuse Israël de crimes d'apartheid ». Alors, cette organisation n'est pas vraiment célèbre pour être très, comment dire, percutante et extrémiste. Et elle nomme la chose, en fait, donc apartheid. Contrairement justement à plein d'autres médias, notamment à la télévision, à la radio, en fait, où... les deux camps sont renvoyés dos à dos, et avec une euphémisation des crimes de l'armée israélienne, et donc sans jamais évoquer en fait ni le contexte historique profond depuis des années, c'est-à-dire une colonisation, donc avec des colons israéliens qui s'étendent en Cisjordanie avec l'aval en fait du gouvernement d'extrême droite de Netanyahou. Et donc là c'est mis comme si en fait c'était des espèces d'événements impromptus comme ça qui arrivaient, on ne sait pas trop d'où. Donc voilà, aucune contextualisation. Et voilà, une manière d'en parler, en fait, très imprécise dans les termes. Je vais passer à un article de frustration. C'est un média plutôt indépendant, très indépendant même, voilà, qui fait beaucoup de vulgarisation, notamment lexicale. Et donc, qui décrypte les mots du néolibéralisme, utilisés aussi dans les médias de propagande. Là leur article
vachement cool,
ouais, c'est bien, bon voilà, nous, moi, on partage beaucoup là le titre de l'article c'est affrontement entre Israël et Palestine, 5 techniques de manipulation du langage au service des dominants. Alors je vais juste lire les 5 points donc qui sont les titres en fait quoi. Donc il y a la première méthode, c'est l'égalisation. Il s'agit de décrire une situation de domination sous la forme d'une égalité de position et de responsabilité. Donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc on a quand même d'un côté, on peut dire, l'armée la plus puissante de la région, ouais. Avec qui a l'arme nucléaire, qui est une société très militarisée en plus, hein, avec un service militaire. C'est pas comme ici. Non, c'est beaucoup plus sérieux.
Ouais, et puis l'aval de la puissance militaire hégémonique, les États-Unis, quoi.
Aussi, oui. Et donc, face à eux, donc c'est très asymétrique. Donc, face à eux, c'est plutôt... Il y a le Hamas, qui est un peu financé par l'Iran, qui balance des roquettes... Voilà. Après, Israël a un bouclier antimissile, donc la plupart, en fait, elles sont éclatées en vol. Et puis sinon, bah, c'est le peuple palestinien qui est concentré notamment à Gaza avec une des plus fortes densités, bah, je crois la plus forte densité au monde de population, et puis avec d'énormes problèmes sociaux dus notamment à...
Au blocus,
hein, tout simplement.
Pour donner une idée, il n'y a pas droit d'importer du béton, donc c'est un peu compliqué pour construire quelque chose. Quoi.
Moi, dans l'article de frustration, juste après le gros titre, ils attaquent tout de suite avec le. On préfère parler de conflit israélo-palestinien, voilà. C'est-à-dire d'une guerre entre deux pays. Or, la Palestine, on lui accorde jamais ce statut, sauf quand il s'agit du conflit. Et donc, il continue en disant « Plutôt que de répression coloniale israélienne ou de résistance palestinienne, la domination coloniale disparaît du même coup. » Et c'est net, juste avec cette appellation « conflit israélo-palestinien », en fait. C'est bien la seule fois où on leur reconnaît un droit qu'on leur refuse systématiquement depuis toujours, quoi.
Et du coup, j'enchaîne sur la deuxième partie de l'article avec le deuxième titre qui s'appelle l'inversion de points. Il s'agit de transformer le dominant en victime et le dominé, entre parenthèses, ou l'exploité opprimé en bourreau. Donc là, ils font le parallèle aussi avec... donc je crois que c'est plus loin aussi. Enfin... Le même mécanisme marche un peu pour tout, hein. C'est pas que pour ce conflit israélo-palestinien, hein, mais aussi dans les dominations de classe, dans les médias dominants, en fait. Donc le dominant en victime, voilà, on a pu voir comment c'était traité sur les mots employés. Là, j'y reviens, c'est que les morts n'étaient jamais bien définis. Donc il y a un autre article d'Acrimed qui évoque ça aussi, et comment dire, c'est il parle de heurts, il parle de frappe avec cette notion un peu de côté chirurgical, enfin le classique qui date de guerres antérieures, hein, notamment menées par les États-Unis, donc jamais de massacre, jamais de même
de bombardement.
De bombardement, ouais, voilà, c'est par exemple, voilà, il y a toute cette guerre sémantique, en fait, voilà, qui est menée, quoi.
Qui a été résumé dans un, c'est Julien Salingue, donc qui est un ancien membre de Acrimed, qui résume ça sur en relevant une dépêche de l'AFP, où il dit, bah voilà, ce titre vous est offert par l'AFP. Et dans un même titre, ça dit « Pluie mortelle de roquettes sur Tel Aviv, frappe musclée sur Gaza ».
Voilà, ouais, c'est ce genre de truc, quoi. Et quand ils disent le dominé en bourreau, alors là, dans les médias, c'est la mise en avant du Hamas, comme si, en fait, tout se résumait au Hamas, quoi. Comme si, en fait, il n'y avait pas un peuple aussi qui se soulevait régulièrement depuis des années et qui n'était pas forcément... dans les rangs du Hamas, voilà, et voilà, quoi. Et notamment aussi, on peut voir que par rapport au bilan humain du conflit, là, il y a une asymétrie totale, et les morts palestiniennes concernent aussi beaucoup d'enfants. Bon, voilà, il y a beaucoup moins de morts du côté israélien, tout ça. Bon, c'est pas pour faire une compétition macabre, mais c'est pas toujours dit, et c'est pas toujours spécifié qui meurt, et c'est pas forcément spécifié que ce sont des civils et encore moins des enfants. Je vais passer au troisième point, qui est la diabolisation et la déshumanisation. Donc ces procédés relativement classiques en temps de répression consistent à attribuer des caractéristiques négatives aux résistants, aux victimes, et de leur retirer leur humanité dans le portrait que l'on fait d'eux. Bon, là, c'est le classique, hein, de propagande, que ce soit avec les communards, les Palestiniens, ou les Gilets jaunes, ou bon, c'est des bêtes hirsutes.
Ouais, qui arrachent les chemises au DRH.
Voilà, exactement.
Ouais, il y a un truc de déshumanisation dans les portraits aussi. C'est-à-dire que tu peux trouver des portraits, quoi, des personnes qui sont mortes en Israël. Mais par contre, les Palestiniens, les morts côté palestinien, ça va être voilà, un numéro dans cette horde ou dans cette voilà, sans histoire et sans humanité quoi, du coup derrière.
Je vais passer au quatrième point, qui est la complexification. Procédé consistant à empêcher toute grille de lecture de la réalité et toute perception des rapports de domination au profit d'une affirmation du caractère complexe des choses, c'est-à-dire de l'impossibilité de dire quelque chose de clair et d'utile sur la société. Alors là... voilà.
Moi, ça me fait penser à un truc... je sais pas si je retrouverai la référence exacte, mais... c'est un texte de Hassina Mechaille, journaliste française, qui doit s'appeler, je l'ai plus sous les yeux, mais on ne construit pas un État à partir de lambeaux de terre. Donc en fait, une des images complexes qu'on peut voir, c'est la carte des territoires dits palestiniens et des territoires dits appartenant à Israël, et en tout cas sous contrôle extrêmement direct d'Israël en tant qu'État. Et bon, c'est, si tu regardes la carte comme ça, c'est extrêmement complexe. Et en même temps, cette complexité, elle masque une vérité très simple, qui est on ne construit pas un État à partir de lambeaux de terre. Donc en fait, il n'y a aucune continuité dans la terre dite tu vois, sous contrôle palestinien, ou sous contrôle soit du Hamas, soit de l'autorité palestinienne. Donc on ne peut pas construire un État à partir de ça. C'est assez... tout le monde le comprend en fait assez bien, mais par contre ce qu'on va t'afficher, c'est une carte qui est difficile à comprendre si on te montre que ça quoi.
Ouais, et puis la réalité concrète, donc on a la bande de Gaza qui est un territoire je vais pas vous dire la taille, mais qui est pas énorme et qui est séparé en fait de la Cisjordanie, et donc avec une large bande israélienne entre le Gaza et la Cisjordanie, et la Cisjordanie qui est de plus en plus morcelée avec là les colonisations qui se font de plus en plus fréquentes. Il suffit de voir, en fait, souvent on voit les évolutions des cartes comme ça depuis 48, parce qu'au départ il y avait la solution avec deux États, et puis il y avait des territoires palestiniens qui fondent depuis 48, et avec de nouvelles colonisations récentes, et la bande de Gaza qui est quand même un territoire, on l'a dit tout à l'heure, population très dense, mais aussi très fermée. Avec des checkpoints et tout.
Ouais,
et
y a on appelle ça un ghetto.
Ouais. Il y a un côté vraiment parcage. Et il faut savoir aussi que les Palestiniens ne peuvent pêcher qu'à une certaine distance de leur côte, là où il y a le moins de poissons en fait. Et après, c'est plus leurs eaux. Et voilà, là, c'est Israël qui peut. Et notamment aussi avoir des choses offshore, tout ça, pour tout ce qui est ressources. Ce genre de choses, peut-être on parlera de l'eau tout à l'heure. En revenant à l'article qu'on a cité en premier, je finis juste sur le cinquième point. Bon, là on a pas trop développé le 4, mais voilà, sur le cinquième point, c'est l'abstraction, procédé qui vise à noyer la responsabilité de dominants au sein de processus flous et grandiloquents où la volonté humaine n'a plus sa place. Donc voilà. La guerre au Proche-Orient, c'est de la folie humaine en acte, la haine de l'autre, l'escalade de la violence.
Les religions.
Au lieu de parler de violence coloniale, en fait, c'est un espèce de processus de généralisation qui empêche de voir le particulier, les situations réelles, concrètes, matérielles, et puis de bien nommer les choses, quoi.
Je parlerai du Rwanda tout à l'heure, mais en fait, les cinq points qui sont abordés là, c'est aussi cinq mécanismes qui sont à l'œuvre pour nier encore aujourd'hui ce qu'a été le dernier génocide du XXe siècle. L'égalisation, c'est ça. On parlait d'un conflit entre les Tutsis et les Hutus. L'inversion, on a fait la même chose avec... d'un seul coup, c'est les Tutsis qui devenaient responsables de leur propre massacre puisque le Front patriotique rwandais essayait de libérer le pays. Et ils étaient considérés par tous les journaux occidentaux comme les Khmers noirs, comme les gros dangereux, alors que On rappelle que c'est parce que le FPR a mené une campagne victorieuse au Rwanda que le génocide s'est arrêté. La diabolisation et la déshumanisation, bah, n'en parlons même pas sur la manière dont ça a été traité, le génocide des Tutsis au Rwanda. Hein. C'est assez rare qu'on voit des images comme on a pu voir où on enlève toute humanité à des personnes qui ont été exterminées. Et puis les deux derrière, la complexification et l'abstraction, qui sont à la limite un processus presque, enfin, qui se recoupe, c'est la même chose, quoi. C'est noyer la réalité derrière des considérations qu'on pourrait ne pas comprendre parce que on pourrait pas comprendre la géopolitique en Afrique. Et en réalité, c'est tout ça, ça a été et ça continue d'être à l'œuvre pour masquer une responsabilité européenne sur une ancienne politique coloniale. Et c'est exactement, enfin, j'avais pas vu l'article avant que tu en parles, mais c'est du même ordre.
On rappellera d'ailleurs que la France de Macron soutient l'État d'Israël sans beaucoup de considération quand pour le peuple palestinien, alors qu'il y avait quand même une certaine politique française, au moins dans les mots, en faveur du peuple palestinien. On se souvient de Chirac, plus ou moins acclamé quand même, ça paraît bizarre de dire ça aujourd'hui, mais en visite en Palestine. Et...
On se rappellera que la France est un des rares pays à avoir interdit des manifestations ce samedi, en soutien au peuple palestinien. Enfin, c'est...
Avec ce procédé de propagande et de mensonge total de Darmanin qui dit « nous ne voulons pas de manifestations antisémites ».
On ne comprend rien, quoi. C'est...
Ah ben, là, on est sur une technique de propagande, c'est l'assimilation à l'antisémitisme, et puis de préjuger de ce qui va se passer, que ça va forcément mal se terminer, pour interdire en amont, enfin bon, on rentre dans des trucs complètement délirants. Et très inquiétant.
C'est une relecture de l'histoire totale, quoi.
Ouais, non, mais là, c'est fait exprès pour dire... ça a été utilisé, hein, pour... en fait, quand... une technique, c'était de certains lobbies, on va dire. Je rentre pas dans les... des portes glissantes, mais c'était en gros d'assimiler l'antisionisme, c'est-à-dire le fait de faire une extension territoriale juive, donc en Palestine, mais sans égard pour la population, bon voilà, locale, autochtone, et puis de l'antisémitisme, quoi. Et donc ça, c'est une technique souvent utilisée, donc machin, et puis vu qu'en plus il y a des abrutis de type Soral, Dieudonné, qui sont passés par là, c'est encore plus facile finalement après d'accuser les gens qui critiquent cette colonisation, de les accuser d'antisémitisme et de les assimiler en fait à ces deux abrutis notamment, ou à ce genre de raccourcis en fait qui vont passer de gens qui vont passer de l'antisionisme à l'antisémitisme, quoi.
Moi ce que j'ai lu, enfin ce que j'ai vu de plus flippant sur ce côté-là, tu vois, faire un récit grandiloquent du conflit presque millénariste entre juifs et arabes, machin et tout. C'était sur Middle East Eye, un reportage, en fait, un micro-trottoir, quoi, si tu veux, à Tel Aviv, qui affirme pas monté, en tout cas pas spécialement monté. Et qui demande dans les rues de Tel Aviv aux gens qu'est-ce qu'il faut faire là, quoi, voilà, par rapport à cet embrasement là. Et il y a une banalité d'un discours ultra hardcore d'éradication, en gros, hein, de
génocidaire.
Il y en a qui disent voilà, faut balancer des bombes sur, faut tout raser, faut tous les tuer. Et vraiment d'une banalité, il y a des jeunes, il y a vraiment ces monsieur et madame tout le monde. Et j'aimerais bien avoir plus d'infos concrètement sur la société israélienne, ce qu'elle en pense, et pas voilà, des lectures millénaristes ou machin. Mais quand même, de ce que j'en ai vu, c'est archi flippant. La construction d'une société où ça a l'air archi banal. Une violence extrême, génocidaire, quoi.
Et on rappellera que cette situation actuelle a quelque chose d'un peu d'inédit quand même, parce que là, c'est des Arabes israéliens qui se foutent sur la gueule avec des Israéliens, donc des Juifs israéliens. Dans les territoires israéliens. Et donc, ils sont censés avoir plus ou moins les... Enfin, ils sont censés avoir les mêmes droits, quand même, quoi. Et donc, là, il y a vraiment un risque
de... Non, il n'y a pas les mêmes droits. Hein. C'est un système d'apartheid légal en Israël où tu n'as pas les mêmes droits si tu es arabe.
Ouais. Tu n'as pas tout à fait les mêmes droits, mais c'était pas non plus un Gazaoui ni ni quelqu'un de Cisjordanie, quoi. Enfin, bon, ce n'est pas tout à fait le même statut non plus. Mais du coup, là, il y a quand même un risque de guerre civile, j'ai envie de dire. C'est-à-dire vraiment... de ceux qui vivent ensemble au quotidien, quoi. Mais bon, les journaux télé passaient des extraits où tu voyais des voisins arabes et juifs s'engueuler, tout ça, quoi. Je rappellerai aussi quand même que tout ça est parti d'une série d'expropriations d'arabes au sein de Jérusalem. Donc c'est ça qui a mis le feu aux poudres et qui a entraîné le début des affrontements sur l'esplanade des mosquées. Et donc, c'est la logique d'expansion du gouvernement israélien qui amène cette réaction massive d'une population arabe qui, au sein d'Israël, est brimée et affamée dans les territoires, sans perspective d'avenir. Il y a un article de La Sociale, là, je citais quelques bouts, qui résume... assez bien les choses et qui propose aussi une solution, hein. Bon, eux, ils sont un peu sur des choses de classe et de peuple, en rappelant aussi quand même qu'il y a une large partie des Israéliens qui n'est pas du tout pour ce genre de solution et que les choses sont souvent mises sur le plan des religions idéologiques comme ça, des religions surtout et mystifiées dans les médias, mais qu'elles sont avant tout politiques et qu'il peut y avoir des alliances, notamment de classe, entre Israéliens et Palestiniens pour une solution à deux États en essayant de vivre en bonne entente, quoi. Bon, on voit que c'est pas gagné. Alors eux, ils proposent l'arrêt immédiat de toute expropriation, de toute vision expansionniste du gouvernement israélien au détriment des populations arabes, l'arrêt immédiat de toute vision expansionniste de l'État d'Israël, de colonisation et d'installation de colons, donc sur les terres habitées par des Palestiniens, la restitution des territoires, terres et habitations aux Palestiniens qui ont été expropriés de leurs biens, la levée de l'embargo qui frappe les territoires palestiniens. Ils ont du courage, mais je crois que c'est pas gagné du tout. Je vais repasser à l'article de Human Rights sur Human Rights Watch, c'est dur à dire, et vous lire un extrait, notamment sur la situation concernant l'eau en Israël et donc comment les Palestiniens en sont privés. Donc c'est issu d'un rapport, donc voilà, je vous dirai la source du rapport après. Israël a utilisé son contrôle sur certaines parties de l'aquifère de montagne en Cisjordanie pour servir ses propres citoyens et colons en violation du droit humanitaire international qui interdit aux occupants d'exploiter les ressources naturelles pour leurs propres bénéfices économiques. Alors que 80% de la zone de recharge en eau de l'aquifère de montagne se trouve sous la Cisjordanie, Israël extrait directement environ 90% de l'eau qui est prélevée de l'aquifère chaque année, ne laissant aux Palestiniens que les quelques 10% restants exploités directement. En monopolisant cette ressource partagée, les autorités israéliennes limitent fortement la capacité des Palestiniens à exploiter directement leurs propres ressources naturelles et les rendent dépendants d'Israël pour leur approvisionnement en eau. Pendant des décennies, les autorités ont refusé aux Palestiniens les permis de forer de nouveaux puits, en particulier dans les bassins de l'aquifère occidental les plus productifs, ou de réhabiliter les puits existants. Alors que les accords d'Oslo de 1995 comprenaient des dispositions qui promettaient d'accroître l'accès des Palestiniens à l'eau, les niveaux d'extraction palestiniens sont largement restés au niveau d'avant Oslo, alors que la population a augmenté. malgré la création d'une commission mixte de l'eau, entre parenthèses CME, dans le cadre des accords d'Oslo, la Banque mondiale a noté en 2009 qu'Israël a conservé pratiquement tous les pouvoirs, y compris le droit de veto, sur les ressources en eau de la Cisjordanie. Tout en approuvant pratiquement toutes les demandes de projets proposées par Israël pour desservir les colons, le CME a rejeté de nombreux projets initiés par les Palestiniens, notamment toutes les demandes de forage dans le bassin aquifère occidental. Les Israéliens sont souvent autorisés à forer plus profondément dans les nappes phréatiques, développent régulièrement des réseaux d'eau internes aux colonies, sans demander l'approbation du CME, et peuvent extraire l'eau sans limite lorsqu'elle s'écoule en aval vers Israël, sans avoir besoin de l'approbation du CME, alors que les Palestiniens sont souvent soumis à des quotas d'extraction stricts. En outre, les autorités israéliennes ont presque entièrement privé les Palestiniens de l'accès à l'eau du Jourdain, la seule ressource importante en eau de surface en Cisjordanie, en détournant son débit en amont de la Cisjordanie. Donc voilà, moi, c'est une situation un peu récurrente.
Ouais, c'est ce qu'on se disait. Cette manière d'utiliser les ressources naturelles, c'est une autre manière de faire la guerre aux gens, en fait, et de les appauvrir. Par exemple, il y a une situation assez similaire. Au nord-est de la Syrie, donc la province du Rojava, dont on a déjà parlé. Et pour les affaiblir, les amoindrir, pour faire en sorte qu'ils crèvent de manière plus sûre, les Turcs détournent les approvisionnements en eau du Rojava. Ils s'en prennent, par exemple, aux barrages. Ça fait partie des cibles de leur attaque, de leur bombardement, en fait, l'accès à l'eau. Quand on pense, par exemple, au livre de Lacoste, la géographie, ça sert d'abord à faire la guerre. Son sujet d'étude premier, c'était comment les Américains avaient bombardé tous les barrages de flotte au Vietnam, faisant en sorte qu'il y avait certains bassins qui étaient noyés, faisant en sorte qu'ils ne puissent plus avoir leur récolte aussi. C'est assez classique, en fait, d'utiliser l'eau comme arme de guerre. Je vous renvoie à un article de reporter donc sur le Rojava qui date du 16 octobre 2019 et qui s'appelle « L'accès à l'eau, enjeu de la guerre turque en Syrie ». Et donc Israël fait la même chose avec la Palestine.
Ouais, comme arme. Enfin, après, est-ce que c'est une arme de guerre ? Je sais pas si le mot est... Enfin, tu vois, il n'y a pas une guerre entre deux États ou entre deux armées ou machin. C'est assez one-sided, on va dire. Ouais, ouais. Donc, c'est décidé par l'État d'Israël ou laissé faire par l'État d'Israël. Et après, qu'est-ce que... Concrètement, ce que ça fait, donc, c'est des morts comme dans une guerre, quoi. Ou ça affaiblit ou je sais pas quoi, mais... Quand c'est décidé par une autorité, comme ça, on n'appelle pas ça une guerre, plutôt une politique. Si le but, c'est de tuer les gens, de génocidaires, si le but, c'est de leur pourrir la vie, contraire aux droits humains, on va dire.
Ouais, en tout cas, c'est une arme utilisée régulièrement, quoi.
Ouais. Jeu de l'eau.
Du coup,
tu voulais finir.
Ouais, on va finir cette partie. Je vais juste redonner les sources. Là, le texte que j'ai lu juste avant, donc c'était issu d'un rapport de Human Rights Watch. Je vous conseille du coup d'aller sur le site Les Crises. Donc, ils font beaucoup de traductions, notamment d'auteurs que t'aimes bien, enfin de journalistes que t'aimes bien, Dubois, Chris Hedge, Greenwald aussi.
Oui.
Là, je crois qu'il y en a deux sur le site. Mais là, l'article s'appelle Human Rights Watch accuse Israël de crimes d'apartheid. Donc voilà, c'est une traduction. Il relaye aussi l'article d'Acrimed. Qui s'appelle Massacre à Gaza, contorsion cynique dans les médias français. Je vous conseille du coup aussi l'article de frustration qui s'appelle « Un frontement entre Israël et Palestine, 5 techniques de manipulation du langage au service des dominants ». L'éditorial de La Sociale est intéressant aussi, à propos de la situation israélienne, c'est le titre. Donc voilà, on a fait le tour un peu. Ouais. Après, ça demanderait évidemment développer le sujet sur des heures d'émission pour être beaucoup plus complet et puis vraiment décrire la situation économique, sociale, politique.
On reparlera sûrement de comment c'est utilisé en France, donc typiquement la manifestation de soutien qui a été interdite ce week-end. Mais je crois qu'on avait juste un petit extrait d'un grand média français pour terminer cette partie-là, pour voir où on en est arrivé dans le discours en France.
Exactement, j'allais oublier
Tu veux contextualiser
ce vieux farceur de Laurent Geoffrin qui est invité dans une espèce de guet-apens. Donc c'est une émission de quelle chaîne déjà? On va vous retrouver ça, vous inquiétez pas, après l'extrait on vous donne tous les coordonnées. Mais sur le plateau il y a Jean Missia.
Ouais.
C'est pas chez Pro qu'il est, lui. Il est dans plusieurs trucs.
Alors,
peut-être.
Pro apparaît au milieu de l'extrait parce que voilà, il y a un montage et après vous verrez que Laurent Geoffrin passe chez Pascal Pro qui lui reparle de l'émission où il s'est fait un peu malmener. On va passer l'extrait. Ouais.
C'est parti.
Il y a des choses brutales qui se produisent, on est bien obligé d'en parler.
Oui.
On est bien obligé d'en parler. Alors le simple fait d'en parler, immédiatement, vous avez une levée de bouclier.
En mentant, comme vous l'avez fait si longtemps en Libération.
Sur le thème, vous mentez.
Non,
mais je ne crois pas qu'on mente. Je crois
que vous falsifiez.
C'est un travesti. Un travesti de vérité.
Ce sont des... Attendez, les libérations comme Le Monde, comme Mediapart, comme un certain nombre d'organes de presse françaises de gauche, effectivement, ce sont des organes islamo-gauchistes qui,
absolument,
de toute façon, prennent fait et cause pour les Palestiniens et parfois même pour le terrorisme. D'accord ? Et Libération, ces dernières années, est devenu le « je suis partout » du collaborationisme islamique.
Non, mais attendez, parce que...
Excusez-moi.
Bon, voilà, il y a Laurent Geoffrin. Laurent, restez avec nous. Laurent.
Non, ça suffit.
Laurent, revenez, restez avec nous, s'il vous plaît. Bon.
C'est
Laurent, est-ce que vous m'entendez ?
C'est tout. Hein.
Bon, on a perdu Laurent Geoffrin.
Vous savez que vous êtes en top tweet. Vous êtes en top tweet, non pas pour une émission qui s'est passée ici, vous avez quitté notre plateau. On n'en parlera pas ici, bien sûr, mais vous êtes en top tweet. Là. Il était sur un plateau de télévision, il est parti.
Ah oui.
La chaise vide. Vous avez pratiqué là.
Non, parce que l'autre solution, c'était de mettre mon poing dans la figure.
Non, vous n'êtes pas.
C'est ce que j'ai préféré ne pas faire. Oui.
Bon.
Visiblement, ce débat et la tension autour de la responsabilité de certains médias est un sujet compliqué, un sujet épidermique. J'espère que Laurent Geoffrin va revenir. En tout cas, Laurent, on vous laisse évidemment nous répondre si vous voulez revenir sur ce plateau. Laurent Geoffrin qui est parti, on ne va pas tous les faire partir non plus. J'espère qu'il va revenir d'ailleurs.
La façon dont on parle d'Israël, on a vraiment l'impression qu'on a tort sur
Il a dû recevoir un SMS du Hamas pour lui dire de quitter le plateau.
Donc c'est quand même compliqué. Et il faut vraiment que les médias fassent attention à ce qu'ils montrent, qu'ils expliquent un petit peu mieux, parce que je suis persuadé que beaucoup de gens qui vont manifester ne comprennent rien du tout à ce qui se passe.
Bah, ils comprennent peut-être mieux que vous, quoi.
Ouais, voilà le niveau où on en est dans notre coin du monde.
Putain, la vache.
Alors, voilà, ça c'était...
Une sorte de condensé de tout ce qu'on a raconté avant.
Ça c'était Laurent Geoffrin, donc qui quittait le plateau de I24 News. Donc il était avec Jean Messia sur ce plateau, donc c'est lui qui l'invective. C'est un ex-cadre du Rassemblement National. On rappellera que Je suis partout est un journal collaborationniste d'extrême droite avant-guerre, où on retrouva notamment les plus belles plumes de l'extrême droite française, telles Brasillac et Rebattet. C'est l'inversion des valeurs, l'inversion des choses dont ose ce fameux Jean Messia qui est...
Parce que là, c'est vraiment une question d'oser, quoi. On sent qu'il dit des conneries plus grosses que lui, quoi, mais il le fait quand même. Donc c'est vraiment une question d'oser pour aller aussi loin dans la caricature. Mais il y en a qui sont là pour oser.
Voilà, donc je vois une couverture de Je suis partout, les Juifs et la France. Les Français devant les Juifs. Enfin voilà, c'était un gros journal. Voilà, je regarde un peu, c'est rassemblant des plumes souvent issues ou proches de l'Action française. Il devient à partir de 1941 le principal journal collaborationniste et antisémite français sous l'occupation nazie. Enfin voilà, bon, faut ouais. Voilà. Et une aversion qu'on retrouve régulièrement dans les médias en ce moment. Là, j'ai entendu un note sur un plateau de chaîne Info en continu qui parlait de colonisation de l'intérieur. Enfin voilà, évidemment de des islamistes, tout, enfin des séparatistes, des machins, tout ça quoi. Et quand on parlait de la construction de l'ennemi comme inhumain, Elisabeth Lévy notamment sur CNews disait que il va falloir que les policiers puissent comment elle dit, envoyer une balle en retour.
Ouais.
Voilà. Et là, il y avait même le présentateur qui disait non, vous pouvez pas dire ça, machin et tout quoi. Bon, qui hochait, enfin comment dire, l'inverse d'hocher, qui faisait une dénégation de la tête comme ça là. A pas mal de propos sur son propre plateau tellement c'était bourrin et que ça partait dans tous les sens dans le n'importe quoi et voilà bon bref
on va terminer cette première partie revue de presse avec la revue de presse de la livraison de ce lundi matin. Yeah. Il y a une très très belle livraison aujourd'hui, très fournie. J'ai pas eu le temps d'aller tout regarder, je vais vous lire juste un titre. Mais ça cause de Palestine. Il y a une histoire d'architecte. Quelle partie voulons-nous construire qu'il va falloir que je lise jusqu'au bout avant de comprendre ce que c'est exactement. Mais en tout cas, ça fait genre, je sais pas, 20 pages. Donc belle livraison. Il y a des trucs sur Bure. Il y a un article qui s'appelle Michel Foucault devant la commission de révision du code pénal qui a l'air assez sympa aussi. Je sais pas de quoi ça cause exactement. Tous séparatistes, une réponse à la tribune des généraux. Et même un peu de musique qu'on passera juste après, je crois, la snob. Voilà, donc je vous conseille d'aller faire un tour sur lundi matin, en ce lundi midi. Et l'article que je voulais vous lire, c'est, voilà, je le retrouve, l'appel à laver les occupations. Et donc ça va causer des occupations de lieux culturels, de théâtre, occupation de l'Odéon, etc. C'est Marc, bon je vais vous lire tout l'article, c'est Marc Hetz qui va parler après, ancien secrétaire, auteur, metteur en scène et ancien secrétaire national de la Fédé des Arts de la Rue. Alors voilà. Mercredi dernier, les directeurs de l'Odéon, de l'Opéra de Lyon, de la Criée de Marseille et du Théâtre National de Nice appelaient à lever les occupations. Cet appel était notamment redoublé par l'interview dans le Figaro de Macha Makeyev qui pouvait déployer son chantage au naufrage. Il n'y a pas de hasard au fait que la directrice de la Criée marseillaise soit à l'avant-garde de ce mouvement de réouverture, elle qui avait tenté de cadenasser l'occupation de son théâtre. Ici, Marc Hetz, auteur, metteur en scène et ancien secrétaire national de la Fédération des Arts de la Rue, répond à la grogne des directeurs. Donc voilà, la suite c'est lui qui écrit. La charge, pleine de bon sens perfide et de haine de classe bien pesée, préfigure celle des CRS. Prenons les paris. Il fallait oser, quand on se prétend femme et homme de culture, céder à pareil amalgame. Lisons plutôt « Aujourd'hui, nous craignons que la banderole « culture sacrifiée » prenne un autre sens et que les lieux culturels soient frappés d'une double peine. La culture risque désormais d'être sacrifiée par ceux-mêmes qui défendaient à nos côtés son caractère essentiel. » Tout y est. Double peine, culture sacrifiée, rien moins que ça. Oui, il fallait oser. On imagine déjà les reportages ad nauseam de BFM TV sur les grévistes preneurs d'otages qui sabotent la reprise pourtant tant réclamée et privent les hordes de publics retraités fraîchement vaccinés d'acclamer les artistes prestement autotestés, sans oublier l'interview palpitant des « jaunes », entre guillemets, sommés de condamner le black bloc des précaires. En principe, Rien d'étonnant à ce que ces personnages cherchent à siffler la fin de la récréation. Par personnage, il faut bien sûr entendre personne qui joue un rôle social, acteur. Rien de dépréciatif ici, non ? Juste un rappel des règles du jeu. Les directrices et directeurs sont bien dans leur rôle à exprimer leurs orientations. Simplement, il n'aura pas fallu une journée, au lendemain de la rencontre entre Elisabeth Borne, Roselyne Bachelot, la CGT et les visiteurs de l'Odéon, pour aussitôt appeler de manière zélée à la levée des occupations et de faire preuve de responsabilité. Il n'aura pas fallu une journée quand les paroles qui portent auront tant manqué ces deux derniers mois, si ce n'est du bout des lèvres, pour chanter le printemps inexorable, plus petit dénominateur commun revendicatif. Ne rien dire et laisser faire, se résoudre de mauvaise grâce à l'accueil des occupants, avec moult circonvolutions oratoires, maniant le chaud et le froid pour ne pas risquer d'un côté de déplaire au ministère et de l'autre de contrarier le premier secrétaire de la Confédération Générale des Premiers de Cordée, ou pire, s'aliéner le professeur Churin un brin plus médiatique. En effet, c'est peu dire qu'ils n'ont rien dit. Rien sur le monde d'après, rien sur le productivisme obscène du monde de la culture, rien sur l'hyperconcurrence, rien sur le marché libre et non faussé, rien sur la jeunesse, rien sur les externalités administratives positives, rien sur les inégalités de genre, rien sur le sexisme persistant, rien sur la diversité, rien sur l'exploration de nouveaux chemins pour l'expérience artistique et culturelle, et au-delà du champ culturel, rien sur les droits sociaux, rien sur la solidarité interprofessionnelle, rien sur rien. Surtout, ne changeons rien, ne faisons pas de politique, car de toute façon, les œuvres se chargent d'en faire et d'en éduquer le bon peuple. C'est ce qu'on appelle le ruissellement culturel. L'essentiel était de se croire essentiel, alors que nous savons bien que nous ne manquons à personne, ni au peuple, ni à ses élus. La fermeture des théâtres et des musées n'a pas soulevé les foules, celle des cinémas a été une aubaine pour la 5G, la fermeture des médiathèques a triplé les profits d'Amazon. Cette condescendance, cette ambivalence ne nous a pas surpris, pas plus que nous ne saurions nous étonner de les voir aujourd'hui invoquer les missions de service public pour exhorter à la reprise et bouter hors des théâtres les sans-grades, les briseurs de rêves et leur convergence des luttes trop syncrétiques. Mais le plus outrageant et définitif dans ce texte tient en un simple adjectif possessif qui trahit un certain séparatisme de leurs auteurs, trop heureux de renouer avec le monde d'avant. Donc là, c'est entre guillemets. Aujourd'hui, la réouverture au 19 mai est acquise et nous, directeurs et directrices de théâtre public occupé, souhaitons rouvrir nos lieux. Tout est dit, grandeur de l'appropriation d'un bien public. Laissez-nous travailler chez nous, avec notre public, retournez donc tenir vos agoras sur les ronds-points, ou allez donc plutôt occuper un McDo, internet est gratuit. Ces gens n'ayant manifestement aucune imagination, n'ayant rien tenté d'autre que de se maintenir, ayant depuis bien longtemps renoncé à la lutte des classes, leur préférant la lutte des places, il devient temps de leur disputer le leadership du pouvoir. Moi, président, je leur foutrais bien mon pied au cul, Noël Godin revient. Voilà, donc sur l'enjeu, j'imagine qu'il va se dérouler dans la semaine là, de réouverture de ces lieux qui sont devenus en deux mois des lieux d'organisation politique aussi, de débat public, etc. Donc à Brest, c'est au Quartz. Donc visiblement, les darons un peu, quoi, que ce soit les directeurs dont parle ce texte-là, où les directions syndicales ont l'air, et où le gouvernement ont l'air sur le même, au diapason sur la réouverture et donc on pourrait dire la fermeture de ces lieux d'organisation. On peut espérer qu'à certains endroits ça persiste malgré tout, je sais pas. On verra bien qu'en est-il de la fédération CGT où chaque fédération est libre de s'engager comme elle le veut.
Oui. À Brest, on rappellera que c'est quand même pas vraiment une occupation. Il y a quand même une espèce de tolérance de la mairie ou d'acceptation, notamment de par certains élus. Et c'est sûrement aussi pour ça que le PCF est très présent à Quartz Occupé et puis aux AG qui se déroulent au Quartz. Et ça pose la question aussi de ce que tu disais de... quand tu fais une espèce de, pas de grève là, mais de mouvement social, disons, avec ton patron, au bout d'un moment, une fois que ça revient un peu dans l'ordre, comment les choses se passent, finalement, oui, parce que c'est-à-dire qu'il y avait aussi des directeurs de théâtre qui étaient d'accord et qui laissaient les lieux se faire occuper, des, etc. Et des gens qui, finalement, après, quand la vie reprend, sont tes supérieurs hiérarchiques et avec qui tu as lutté. Donc, ça peut amener certaines limites, en fait.
Ouais, ce qui est vraiment aussi dénoncé dans ce texte, c'est voilà, si ça s'arrête donc mercredi, hein, c'est ça, le 19 mai, qu'est-ce qu'il en est sorti concrètement de politique, de plus large, machin ? Absolument rien.
Pour ceux qui fréquentent les lieux, il y a quand même bon, une petite politisation voilà, sur des questions qui... qu'il ne traitait pas, notamment la réforme de l'assurance chômage, au début à Brest, n'était pas dans leurs revendications. On va arrêter cette première partie sur la revue de presse.
Ouais, on va terminer avec un morceau qui est aussi dans l'édition de ce matin, de lundi matin, qui est en soutien aux personnes emmerdées face à la justice suite à leur lutte, enfin,
ouais, on va...
en face de leur lutte à Bure.
Donc on passe l'appel...
la poubelle nucléaire.
On passe l'appel à procès des 1, 2 et 3 juin à Bure.
Ouais. Après, on passe.
Ah, tout de suite, les Funky Chies.
Yes, ça c'est le morceau que Pierre a trouvé
voilà,
sur lundi matin.
On va voir ce que ça donne. C'est une sorte d'hommage à Nicolas Hulot, à ce que j'ai compris, mais je n'ai pas tout écouté. Je me suis réservé le...
Et on enchaîne avec...
avec vous.
Je ne me souviens plus.
Ah, El Maout, bien sûr.
Super, allez, c'est parti, on fait ça tout d'un coup. C'est parti.
Tous et toutes à Bar-le-Duc, le 1, 2 et 3 juin, contre Cigéo, le nucléaire et la criminalisation de nos luttes.
Après 4 années d'instruction pour association de malfaiteurs,
des milliers d'heures d'écoute par la gendarmerie,
un dossier de 15 000 pages,
des mètres cubes de matériel saisi,
un harcèlement policier omniprésent dénoncé par la Ligue des droits de l'homme,
l'heure de la mascarade judiciaire a sonné.
Les 1er, 2 et 3 juin au tribunal de Bar-le-Duc, se tiendra le procès des 7 malfaiteurs de la lutte à Bure.
Des amis, luttant contre le projet de méga poubelle atomique Cigéo, ont été privés de leur liberté de circuler et empêchés de se parler pendant de longues années.
Cette procédure a constitué une peine et a tenté de paralyser tout un mouvement de résistance.
Ce qu'on muselle chez ces personnes, c'est leur engagement anti-nucléaire, leur conviction et leur liberté d'expression.
Nous sommes toutes des
malfaiteurs. Toutes des malfaiteurs.
Nous sommes toutes des malfaiteurs.
Nous sommes toutes des malfaiteurs.
Nous sommes toutes des malfaiteurs.
Il n'y a toujours aucun déchet nucléaire à Bure. Pour autant, nous sommes à un moment charnière, car Cigéo pourrait bientôt être reconnu d'utilité publique.
Expropriation, défrichement du bois Lejus et premier chantier pourraient voir le jour d'ici 2022. Nous ne nous laisserons pas faire. Ce procès des malfaiteurs sera surtout le procès de Cigéo et du nucléaire.
Il est temps de dénoncer l'association de malfaiteurs comme outil de criminalisation de nos luttes. Cet outil juridique, issu des lois dites scélérates et de l'antiterrorisme, est utilisé pour tenter de paralyser toutes les formes d'auto-organisation, partout en France et ailleurs.
Contre des gilets jaunes, des personnes des quartiers populaires, des antifascistes, des écologistes.
Leur justice en carton-pâte ne nous fait pas peur. Les 1er, 2 et 3 juin, réunissons-nous à Bar-le-Duc devant le tribunal. Soyons nombreux et nombreuses à affirmer notre opposition au nucléaire, à soutenir nos amis, à célébrer toutes nos luttes et à dénoncer cette instruction.
C'est le moment d'enterrer Cigéo.
Rendez-vous les 1, 2, 3 juin à partir de 9h à Bar-le-Duc devant le tribunal et mardi 1er juin à 14h pour un cortège festif.
Possibilité d'hébergement sur Bure et alentour. Plus d'infos sur la mobilisation sur burburbur.info
et sur nousommestousdesmalfaiteurs.noblog.org.
Ces déchets, il faut bien en faire quelque chose. Mais en tout cas, ce que je veux dire, on ne peut pas imposer.
Populations locales sous prétexte qui sont dans des endroits un peu éloignés, on arrive et puis sans les consulter, sans transparence, voilà, sans les consulter, sans transparence, voilà,
sous prétexte,
ces déchets, il faut bien en faire quelque chose. Il faut bien en faire quelque chose.
I'm back in the weeks, make my kids a repeat and take on the white and the five old dice. A white old beat and the dick cracking the door with your brain and spinal weeds. I fight on the white in the base, a rack more with the bite, spinal weeds. I end up with right bang of a say. Up for my brightest space, right on my way. Mighty dick of big, it's a right, make some bets. To break now with the being freezing and I come away by spinal day. You right on my way, by dreaming the bike, it's a vibe for win a die too. Right now, I'm always at the bite and then fight so. In the vibe fights. Oh my, come on my brain. Sing the right of the mic, keep my vein. Right on my pace and up and by. Tighten down. How? Give me the mic. Some wrecking face and more wolf bike beat and I know my bright bigs. Hop a white man to do with me bass. And my name will made it by hanging face. Off of a brightening, stop up my heat, spin a wool, it's fat toe with not cool. I need bikes, pay no, rock on my big toe, wisdom mic. Hey today, have a white mic, having a mole, hop in the mix, have a break, make stop a white toe, way in the mix. I want big reason, say I'm feasing, soft go in the bright days. I need to say it's peasing, hip a white king. Half a day, need to rock more with wings. I find in the mice, a bride, a fat claw, a sign of my doubt. A wife on vice, the way makes a way. A way up on white. Open mates a weak my hate a ball with the neck back hot patsy. I tell me red bigs, mouth ball with ain't on pop or say on big freeze. Hide a bite and scroll when no walk. I paint top of rain and fight the dog. Hike a mo with a bite and strack moby. A white mic, it's a bee. Half a bright, it's peg so a weak. Hop a white disc and three common maybe. A track common mate, stop a bank trade and the mic up always white or D. A next fight, it's pike so whack mo a day. Half a name cried in the mop of Wi Fi. A white spine in the night top in the repeats. Rack home in the week. I'm a mic, so break no more.